il n'y a pas si longtemps, dans une galaxie assez proche.
Le confinement perdure, le virus fait rage partout dans le monde.
Un nouvel espoir est né, la population voit enfin le bout du tunnel.
Pour les aider à tenir, deux podcasteurs confinés dans une cave bricolent une émission.
Leur but est simple, apporter la bonne humeur dans les foyers.
Ils entament donc un pèlerinage dans les confins de la galaxie.
Leur premier arrêt est sur Scarif, pour récupérer de précieuses données sur l'Empire.
Par la suite, ils ont mené leur pèlerinage sur Corriban, pour en apprendre un peu plus sur les sites et leur façon de penser.
Pour contrebalancer la force et ne pas sombrer dans les méandres du côté obscur, ils se sont ressourcés sur Arcto, pour ne faire qu'un avec la force et que la force soit avec eux.
Leur voyage ne s'arrête pas là. Ils prennent la route pour Yavin 4 et discutent avec la rébellion pour connaître les tenants et aboutissants de la menace d'Arth Corona.
Ils sont maintenant de retour sur Terre et comptent bien partager leurs trouvailles à ceux qui veulent bien écouter.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Salut Dalil.
Salut Léandre.
Épisode spécial du podcast, évidemment. Demain, nous sommes le 4 mai. Et le 4 mai, c'est...
May the 4th be with you.
Et voilà, la journée internationale de Star Wars, évidemment. Donc, épisode spécial Star Wars. Comment on a fait notre truc? Bah, c'est très simple. On n'a pas voulu faire un classement des films parce qu'on se serait pris plein la gueule. Et puis, le classement est assez logique.
Ouais, voilà, c'est ça.
Y a
c'est
pas vraiment de gros débat.
Soit de première trilogie, soit de deuxième trilogie. Et encore et la encore, première.
Ouais, il y a le 3, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, le 3.
Donc, voilà, on a décidé de vous parler des personnages plus précisément. Donc, on a séparé les personnages entre, on va dire, les gentils et les méchants, enfin, les rebelles et l'Empire. Et on a chacun choisi 3 personnages dont on va vous parler.
Mais il faut savoir que, eh bien, on a dû prendre des raccourcis.
Oui.
Parce que sinon, on est limité par le temps. Sinon, en fait, on fait une émission complète sur un des personnages et puis c'est tout. On a fait de la vulgarisation aussi.
Tout à fait.
Ne nous tuez pas, ne nous clouez pas sur une croix, s'il vous plaît. Nous savons que... c'est un peu plus profond que ça, parce que l'univers de Star Wars est vraiment profond. On peut en parler pendant des heures, voire des années. Du coup, on va enchaîner directement avec l'Empire.
Soyez un peu indulgents. Mais avant ça, je vais quand même proposer qu'on fasse notre flop et top des films. Donc, on va commencer avec le film qu'on a le moins aimé et on terminera avec le film qu'on a le plus aimé pour quand même histoire d'avoir un petit classement. Quoi.
C'est ça.
Donc, le film Star Wars que tu as le moins aimé, Dalil.
Oh, finesse.
Je pense savoir.
Ouais, c'est Star Wars 9, mec.
Tu l'as regardé il n'y a pas si longtemps.
Ouais,
tu
non,
m'as envoyé des SMS tout le long en me disant que c'était la grâce de retour.
C'est ça. J'en pouvais plus. J'ai vraiment eu l'impression en fait de perdre 2h40 de ma vie. Donc
2h40
C'est 2h40
je me rappelais plus.
Ah ouais non, c'est long.
C'était pas si terrible que ça alors. C'était
long. Ah ouais non, il y a vraiment rien qui va dans cet opus là. Pourtant, tu vois, j'ai plus ou moins kiffé le second volet. Mais en fait, le dernier volet a vraiment montré que ils avaient aucune ligne directrice. Genre rien du tout, ils savaient pas, ils étaient juste là pour faire du fric et alors ça donne
et c'est
quoi.
Réussi. T'as vu le fric qu'ils se sont fait.
Mais c'est normal,
film.
Gros.
Bah oui.
Tout le monde a tenté chaque film.
Ouais, ouais, ouais.
Mais là, il va y avoir une grosse, un gros scepticisme pour la nouvelle trilogie qui est annoncée.
Je sais pas.
Quoique, c'est quand même George Lucas qui reprend les rênes. Oui, parce que c'était tellement de la daube que George Lucas a dit...
On efface tout, on recommence.
Ouais, c'est ça. On efface tout et on recommence. Donc, on va avoir un nouveau truc. On va sûrement avoir les mêmes personnages, mais pas du tout le même background, quoi.
Yes.
Et toi,
donc,
c'est quoi ton film?
Moi, c'est un peu dans le même style que toi, évidemment, mais sauf que moi, j'ai choisi le 7, le réveil de la force, plus comme un symbole de ras-le-bol contre la trilogie Disney, tout simplement, parce que je pense qu'en entièreté, évidemment, je trouve aussi que le 2 est un peu mieux, surtout au niveau de l'esthétique du film, il y a des scènes très belles.
C'est ça, et puis c'est surtout que dans le 2, ils ont porté des couilles, tu
ouais,
vois.
Ouais, quand même, un peu.
Ils
ouais.
ont décidé, parce que le 7, enfin...
Le 7, il n'y a aucune originalité, quoi.
Zéro.
C'est du remake.
Ouais, alors on sait que dans l'univers Star Wars, il y a toute cette affaire de cycle qui est à l'intérieur... Que l'histoire se répète, patati patata, mais là c'est vraiment trop gros.
Là c'est trop gros.
Là ils ont pris le 4. Ils ont pris le 4
c'est
et ils se sont dit on fait la même chose.
C'est vraiment ça.
Là c'est chaud.
Donc voilà pour nos flops, je pense que les gens seront assez d'accord là-dessus. Et on va ensuite passer à l'Empire, tout simplement.
Exactement.
Avec notre top 3, donc moi, j'ai choisi Dark Maul comme personnage préféré. Donc je le choisis surtout par nostalgie, parce que bah, évidemment, quand c'est sorti, on était des gosses. Et putain, tout le monde kiffait Dark Maul, quoi. C'était ouais, vraiment ça, le mec qui avait le plus de swag. On avait tous ce fauteuil gonflable.
Toi aussi,
à
tu l'avais. Ah, il me s'est flippé la nuit, gros.
C'était trop cool.
C'était vraiment génial.
Mais tout le monde l'avait, c'est bien abusé. Je le trouvais méga stylé avec sa double lame, évidemment.
Mm-hmm.
Et alors, dès que je pouvais jouer à des jeux Star Wars après, dès qu'on pouvait choisir son sabre laser, je prenais toujours un double lame. Et alors, sa fight avec Obi-Wan et Qui-Gon, qui est épique.
Ah ouais, elle est épique.
Et c'est surtout une masterclass de comment une bande originale bien choisie peut élever une scène. Parce que la fight en elle-même, c'est pas la meilleure fight de Star Wars, mais la musique, ça te rajoute ce sentiment de wow, magnifique.
Ah ouais, ouais.
Magnifique. Qui-Gon, j'adorais le voir brûler comme ça. J'ai encore une petite larme.
Le spoil, wesh.
Ouais, bah. mais bon, raconter toute l'histoire de Dark Maul, bah, comme on vous l'a dit, ce serait impossible dans ce podcast. Donc, si vous avez vu que les films, vous n'avez qu'une infime partie de sa vie, parce qu'il faut savoir que pas mal de personnes ont buggé lors de son apparition dans Star Wars Story Solo. Donc, si vous ne l'avez pas vu, on le voit à un moment qui apparaît,
c'est
qui
ça,
parle
ça.
À Daenerys Targaryen. Et donc, les gens, ils ont fait what the fuck, il n'était pas censé être mort. Sauf qu'on remarque qu'il a des jambes bioniques. Et donc, dans Clone Wars, on raconte un peu plus son histoire. Donc, une fois qu'il s'est fait découper par Obi-Wan et qu'il tombe dans le truc, il survit.
Oui.
Tout simplement parce qu'il a une volonté de vivre extraordinaire.
Bah, il a un passé qui fait qu'il a une volonté de vivre
extraordinaire. Ouais, voilà, on va pas raconter son origin story. Il a été, en gros, Dark Sidious a été le chercher sur sa planète quand il était tout petit. Et il a vu un énorme potentiel en lui. Il l'a pris et il lui a fait des trucs assez bizarres. Quoi.
Ouais. Et il est pas. Merci. Hashtag MeToo pour Dark Maul.
C'est ça. Et donc, en gros, il s'est juré de se venger en tuant Obi-Wan. Et donc, dans Clone Wars, on explique un peu plus sa vie, on retrouve un peu sa famille, etc. Donc, c'est très intéressant si ça vous intéresse. C'est un site extrêmement puissant, déjà.
Oui.
Et très déterminé à vivre et à toujours s'améliorer. Donc, c'est ça qui est pas mal kiffant aussi. Et alors, le retour à l'écran dans Solo était quand même très réussi, vu que... Bah, esthétiquement, il était bien foutu, je trouve.
Ouais,
et
ouais,
aussi,
ouais.
C'était la voix de l'acteur qui le double dans Clone Wars,
c'est ça.
Qui était là. Donc, ça rajoutait une petite touch pour les amateurs de Star Wars.
Allez, moi, mon troisième, ben justement, il va un peu à l'encontre du tien, tu vois.
Ah.
C'est Comte Dooku, incarné par nul autre que Sir Christopher Lee, qui est l'acteur qui pulse le plus pour moi. Il a vraiment la classe. Enfin, bref. Donc, Dooku, c'est un héritier d'une famille de nobles sur Cyrano. Il va commencer à être un Jedi. Il va être élevé au rang de maître. Il a été donc apprenti Jedi sous Yoda. Et l'apprenti de Dooku, c'est qui d'autre que Qui-Gon,
évidemment.
Ton personnage préféré. R.I.P. Et donc, il a décidé de passer du côté obscur quand il a remarqué que le Sénat était complètement corrompu. Et donc, tout son personnage, pour moi, pue la classe. On va pas se mentir. Le gars, donc, tout son personnage est basé sur l'aristocratie et sur le fait que c'est un noble. Et donc, du coup, il salue ses adversaires avant de commencer le duel. Il est le maître de la deuxième forme de combat au sabre laser, qui s'appelle Makashi. Un art qui est basé sur la souplesse, la justesse de tes coups, la précision et la force aussi. Et tout ça se traduit fortement dans cette fight mythique entre Yoda, Anakin... et Obi-Wan, cette fight avec du lore en veux-tu, en voilà.
Dans le numéro 2.
C'est ça. Dans cette fight-là, pourquoi il y a du lore ? Bien, tu as Dooku qui a appris sous Yoda, avec qui il se bat. Puis tu as Obi-Wan qui a appris sur Qui-Gon. Et tu as Anakin qui a appris sous Obi-Wan. Donc c'est vraiment la bataille des maîtres, quoi. Des maîtres et des padawans. Et en plus de ça, juste pour la petite fight, il y a... George Lucas qui a décidé de faire une petite vanne à, comment il s'appelle,
Christopher Lee.
Et donc il a rajouté des dents de vampire en fait à Yoda, parce que Sir Christopher Lee est connu pour son rôle, enfin pour son rôle de Dracula qu'il a perpétué dans plusieurs films, quoi. Je te dis pourquoi il y a une continuité avec Darth Maul et pourquoi il est à l'encontre de lui.
C'est vrai.
C'est parce que lui déteste en fait les combats au sabre. Enfin, il déteste les gens qui utilisent deux sabres en fait.
C'était pas assez noble.
C'était pas assez noble, en effet. Et donc du coup, ça s'est traduit par Anakin qui perd sa main, etc. Quoi.
Yes.
Et
beaucoup de mains perdues quand même.
Oui, il y a beaucoup de mains perdues. Le cycle.
Et des bras aussi. Et des jambes.
Le cycle, tout ça, tout ça.
Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, le numéro 2 chez les méchants, c'est Anakin. Et oui, parce que Anakin, il a quand même été méchant un peu dans la grosse partie de la revanche des Sith. Donc c'est vraiment le Anakin turn Dark Vador, juste avant sa métamorphose. C'est quand même un des meilleurs turns de l'histoire du cinéma. Son passage de Dark dans la revanche des Sith, c'est une masterclass. Ça nous offre les moments tellement dark et tellement iconiques. Enfin, je prends la scène du temple, c'est...
On a des mèmes dessus.
Ça met mal, mais ouais. En même temps, c'est tellement waouh, tellement profond. Son regard de feu là, perçant, où tu sens qu'il a vraiment sombré
dans le
côté obscur et sombré de malheur, de détresse, une volonté absolue de sauver son amour. Mmh. Et donc, justement, pour revenir à son amour, oui, la romance avec Padmé dans le 1 et dans le 2, c'est un peu chiant.
Mais
un peu beaucoup même, des fois.
Ouais, c'est vrai.
Surtout dans le 2. Dans le 2, c'est un peu abusé. Dans le 1, ça va encore, c'est le début, bref. Mais sauf qu'on se rend compte qu'elle est nécessaire pour justifier ce turn si drastique, parce qu'au final, ça se fait quand même assez vite, je trouve, mm-hmm. tu vois. C'est à partir du moment où Palpa lui parle des pouvoirs du côté obscur qui peuvent sauver Padmé. Je préfère même Anakin turn à Dark Vador. Tu vois,
ah ouais.
J'aurais préféré qu'il reste comme ça au lieu de se faire burn comme ça par Obi-Wan. C'est un choix de style, on va dire.
Ouais, bon après.
Moi, j'ai du mal quand même avec les yeux de mouche là de Dark Vador.
Bon, allez, arrête.
Oh là, je suppose que tu défendras
Dark Vador plus tard.
Et alors, évidemment, Anakin Turn nous offre le plus beau combat avec Obi-Wan. Il faut savoir que cette scène n'est pas accélérée, donc c'est une vraie scène à vitesse réelle. Ils ont répété ça maintes et maintes fois pour nous offrir un combat. Waouh, quoi.
Pendant 2 mois.
Ouais.
2 mois d'entraînement juste pour cette scène.
Niveau physique, niveau cascade, niveau tout ça, c'est quand même du très très lourd, quoi. Donc voilà, Anakin Turn, c'est mon deuxième méchant préféré dans Star Wars.
Moi, mon deuxième méchant préféré, eh bien, c'est celui qui a converti Anakin au côté obscur.
Les connexions.
Il y a vraiment une connexion. Hein. Aujourd'hui, c'est ouf.
Ça fait quelques podcasts qu'on est fort.
Ah ouais, hein. Là, on est en symbiose totale. Donc c'est Palpatine qui est pour moi le plus grand stratège de Star Wars et un des plus grands vilains du monde du cinéma.
Est-ce qu'il est autant stratège que Ahmad ?
Non. Non. Ahmad, il était trop loin. Ahmad de Koh-Lanta, hein, pas Ahmad... Enfin bref.
De quel autre Ahmad tu voulais parler ?
Ahmad de Koh-Lanta. Donc, petit tour de ses origines. Il est né sur Naboo et il s'est laissé tenter par le côté obscur en collectant des artefacts de Sith. Je ne vais pas vraiment rentrer dans toute son origin story.
C'est un intellectuel.
C'est un intellectuel déjà de base. Et il a rencontré Dark Plagueis le sage. Et c'est vraiment ce dernier qui l'a converti au côté obscur. Il ira même tuer sa famille juste parce que Plagueis lui a dit de le faire. Et comme ça, il peut se consacrer entièrement au côté obscur, à l'apprentissage du côté obscur. Et alors, pas de chance pour lui, Plagueis s'est fait tuer dans son sommeil par Palpa.
Évidemment. Et ça aussi, c'est encore un perpétuel...
C'est ça.
C'est quand même dingue, on va le dire à chaque fois. Bref.
Et donc, après, il s'engage donc dans la politique et il va gravir les échelons. Après l'histoire, tout le monde la connaît, on l'a vu, revu dans les épisodes 1, 2, 3. Mais c'est vraiment pour ça, en fait, que je le kiffe. C'est cette manière avec laquelle il va monter au pouvoir d'empereur, tu vois. C'est tous ces jeux de manipulation, comment il avait prévu ses coups à l'avance. On sent vraiment que c'est un gros joueur d'échecs. Et il a, par exemple, demandé à Dooku de se retirer du monde politique et d'aller former une alliance avec les entités qui voyaient la République d'un mauvais œil, tu vois. Et alors, il s'est allié à Dooku juste parce que lui, donc Dooku, avait de l'influence... politique, et il avait de la thune surtout, il était un aristocrate. C'est pour ça que dans le truc, il en a rien à foutre en fait, quand il meurt.
Oui, évidemment. C'est très politique, hein, Star Wars.
C'est ouf. Hein. Et puis même, il a planifié l'Ordre 66 avec Dooku, tu vois.
L'Ordre 66.
Et la façon dont il manipule Anakin et le Sénat en mode YOLO, c'est juste fou. Mais est-ce que tu sais de quel leader il s'est inspiré?
Je sais pas, genre Mussolini ou une coïncidence, tu vois.
Pas du tout. Il s'est inspiré de Nixon.
Ah.
Donc, les années 70 ont été marquées par le Watergate.
Évidemment.
Et là,
donc
au
Nixon,
moment...
président américain.
Oui, c'est un président. Enfin bref. C'est vrai. Donc, pendant cette période, le Watergate était médiatisé de ouf, et Palpatine, comme Nixon, est monté au pouvoir comme étant un démagogue en plein milieu d'une guerre orchestrée. Donc il y a vraiment un parallèle entre les Clone Wars et la guerre du Vietnam.
Et ça, c'est assumé par George ?
Oui, c'est okay. George Lucas qui l'a dit clairement. Comme Nixon, Palpatine...
D'accord, un communiste.
C'est ça, fou. Donc, comme Nixon, Palpatine a réduit les libertés et a attaqué l'ennemi avec des actes obscurs et illégaux, oui, tu vois. Quand tu regardes bien, la guerre civile galactique entre les rebelles et l'Empire, c'est juste un miroir de la guerre culturelle qui a surgi aux USA sous l'ère Nixon. Et alors, il va même plus loin dans la mise en abîme. Donc, George Lucas va même plus loin dans la mise en abîme, puisque dans les préquels, eh bien, il va baser son histoire sur Bush. Juste un petit rappel, le 11 septembre 2001 et la guerre en Irak est en 2003. Mm-hmm. Eh bien, l'épisode 3 sort en 2005.
Yes.
Et donc, George Lucas en a profité pour réécrire un peu Palpatine et montrer la façon dont il va prendre le contrôle total du Sénat, puisque cette façon est un miroir dont Bush s'est vu augmenter son autorité aux USA, tu vois.
Patriot
donc,
Act, tout
ça. Dans
ça.
Les deux cas, on a des régimes qui sont devenus plus violents et Lucas va montrer comment la corruption fonctionne et comment une république qui se dit bénévole à la base, eh bien, va se transformer en un empire du mal.
Oh là là, ouais. Le parallèle est magnifique, Dalil, c'est incroyable ce que tu
dis. C'est fou, hein. Et toi, alors, ton top 1 ?
Alors, mon top 1, c'est un des personnages préférés de l'univers Star Wars par les gros fans.
Hardcore.
Ouais, étant fan de la série de jeux vidéo Knights of the Old Republic, j'adore son histoire. Résumer son histoire en si peu de temps serait un affront à l'homme qu'il est. Et donc, je vais quand même essayer de vous faire un méga résumé d'une podcast. Je parle évidemment de Dark Revan. Vous ne le connaissez pas ?
Les c'est fouets, gros.
Normal parce qu'il n'apparaît pas dans les films, ni dans les séries, ni dans... c'est tout.
C'est tout. Film, série, des comic books ou pas ?
Oui, sûrement, mais il n'apparaît pas dans les dessins animés. C'est ça que je voulais dire.
Ah oh, punaise, t'es vraiment underground, toi.
Yes, ça...
Mais tu te rends compte que les fouets, là, ils vont claquer. Hein.
Ouais, je sais. Mais donc, voilà, écoutez-moi bien. Pour les fans, ceux qui connaissent SVP, ne me flageolez pas sur la place publique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, excusez-moi, je vais devoir aller assez vite. Revan est un jeune Jedi prometteur, issu d'un monde inconnu, donc déjà, suspense. Mais lors des guerres mandaloriennes, pas le temps d'expliquer c'est quoi les guerres mandaloriennes, on le fera peut-être une autre fois, mais en gros ça implique une guerre et des mandaloriens. Il est l'un des premiers à avoir critiqué l'ordre Jedi pour son inaction dans ce conflit. Donc les mandaloriens étaient en train de péter tout le monde, le conseil Jedi a dit on fait rien, c'est pas notre guerre. Lui il a dit si, on va faire quelque chose. Donc il va créer un petit gang de Jedi qui vont partir en guerre. Il était tellement balèze qu'à un moment, avec son crew qui s'appelait donc les revanchistes, ils ont pris carrément le commandement de la flotte républicaine. Petit raccourci, il gagne la guerre et Revan tue Mandalore l'ultime. Donc il est adoré par toute la République comme étant un vrai Jedi, alors que le conseil est très critiqué évidemment. Avec son drare Malak, je vous en ai pas parlé mais en gros il a un drare qui s'appelle Malak, ils vont ensuite tenter d'éliminer l'empereur Sith Vissiate, excusez-moi.
On a vraiment du mal avec les noms.
Excuse-moi Vissiate si tu veux venir dans le podcast.
Marhaba Bek, bienvenue. Hein.
Donc là on n'en parle pas mais c'est un des plus gros empereurs Sith de l'histoire de Star Wars. Sauf que ils se font péter évidemment et leurs esprits se font corrompre et ils deviennent donc des Sith tout simplement. Sauf que l'empereur a un peu sous-estimé Revan qui a une force d'esprit énorme et qui arrive à se délivrer de son emprise et part en mode solo avec Malak à la recherche de la forge stellaire.
Waouh.
Mais c'est quoi la forge stellaire ? La force stellaire, c'est un peu comme dans Star Wars 9. C'est une machine capable de créer des vaisseaux de guerre rapidement et de manière infinie.
Tu veux dire le film qui n'existe pas, en fait ?
Le film qui n'existe pas.
Okay.
Je continue les raccourcis, mais Revan et Malak deviennent les ennemis de la République, vu qu'ils sont méchants. Le drare Malak en veut plus, donc il double-cross Revan. Revan se fait capturer par les Jedi et perd connaissance. L'ordre Jedi récupère donc Revan et lui efface sa mémoire pour l'utiliser contre Malak. Revan pète Malak, mais retrouve petit à petit la mémoire. Et c'est en gros l'histoire qui est racontée lorsqu'on joue à Knight of the Old Republic numéro 1. Son histoire n'est pas terminée, mais moi j'en ai terminé de vous la raconter parce que sinon on est encore parti. Il y a des histoires d'amour, enfin bref.
Oh là là.
C'est un des personnages les plus profonds de l'histoire de la saga. Il est gentil, puis il est méchant, puis il perd connaissance, il redevient gentil, il redevient méchant, enfin bref.
C'est ça quoi, il a pris tous les clichés et on les a mis dans un personnage.
Mais il pulse tellement, c'est waouh. extrêmement puissant, extrêmement intéressant, et il a eu un impact sur la galaxie énorme, évidemment. Donc il y a des rumeurs de films sur sa... basées sur sa vie, comme si c'était un biopic, tu sais.
C'est ça.
Depuis énormément, bah, depuis que les jeux sont sortis, tout simplement, mais jamais rien de concret. Mais là, depuis Disney, enfin, on entend de plus en plus de rumeurs, donc à,
bah,
à voir.
C'est possible, hein, puisque ils ont tellement de projets,
ouais, bah, à fond.
En mode point d'interrogation.
Et toi, ton personnage préféré, c'est...
Eh bien, si je te dis...
Ah.
Attention.
Un petit.
On va parler en mode Julien Lepers.
D'accord.
Top. Petit garçon né dans l'esclavage, sans figure paternelle. Je grandis avec ma mère, ayant un grand potentiel. Je me vois forcé de quitter mes proches et ma mère pour un avenir plus radieux, étant considéré comme l'élu. Un conseil essaie désespérément de me contrôler. En grandissant, on me demande de ne plus éprouver d'émotions comme un amour, haine, etc. On me bannit du conseil et on me refuse le rang de maître. Je vis quand même un amour secret. Je suis...
Jean-Claude Van Damme.
Mais non ! Ah. Hanté par des visions où les gens qui me sont proches meurent, je fais part de mes inquiétudes au conseil et ils me disent de trouver la paix pour être forcé ensuite à partir en guerre. N'ayant plus de figure paternelle, je me tourne vers l'empereur qui est bienveillant avec moi. Je commets des actes atroces et innommables pour être dans ses bonnes grâces et protéger ceux qui me sont chers. Mon ancien maître me combat, je perds mes bras, jambes. L'empereur a fait confectionner une armure pour moi, armure qui prolonge ma souffrance et je continue le reste de ma vie à être le pantin de celui-ci. Mon pouvoir immense ne vient que d'une chose, la haine que j'ai envers moi-même. Je suis...
Dark Vador.
Oui. C'est le personnage qui est le plus attachant pour moi, c'est Darth Vador. Ce personnage a été créé autour de la peur, de la mort, et les décisions qu'il prend, en fait, sont basées là-dessus. Et c'est comme ça, en fait, que Palpatine permet de le manipuler. Enfin, pour moi, il pue la classe. Mm-hmm. Quand tu entends le...
Oui, évidemment.
Tu vois,
c'est, ça, c'est le pop culture, quoi.
C'est clair, quoi. T'as des frissons juste en entendant ce bruit-là,
c'est dans l'histoire.
Quoi. Et encore une fois, tu as... le personnage donc d'Anakin qui est basé sur la peur et puis comment la peur se transforme en haine, tu vois. Haine, eh bien, elle est sublimée dans Rogue One. Elle est magnifique. Elle a... Donc, dans Rogue One, il y a cette scène mythique, pour moi, qui est la plus mythique de l'univers Star Wars. C'est vers la fin. On voit, enfin bref, Star Wars, Darth Vader...
C'est un peu le début du 4. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment le début du 4. Et puis, il y a aussi... Eh bien, la scène finale de Darth Vader entre son fils et lui, qui est majestueux et magnifique et qui vraiment termine l'arc de Darth Vader de la plus belle façon qui soit. Quoi. Mm-hmm. Et c'est pour ça que pour moi, dans la nouvelle trilogie, le gars, donc Kylo Ren, il a rien compris. Et ça me casse les couilles, en fait. Ça me casse vraiment les couilles, enfin bref.
Bah, en même temps, il devait faire quelque chose de
différent, différent, mais enfin bref, même Adam Driver, je trouve qu'il a vraiment déconné sur son rôle. Enfin bref. Ça y est, je tac. Star, le coude.
Je pense qu'il est temps de passer aux gentils, parce que là, un peu trop de méchant.
Un peu trop de méchant.
On va essayer de parler des gentils.
Voilà.
Mon troisième gentil préféré, ça fait trop rire qu'on dise les gentils et les méchants. Bref. Mon troisième personnage des rebelles préférés, c'est Finn. Et alors là,
Mais c'est pas possible. Mais dis-tu. Vas-y, dis-moi. En fait, toi, t'as kiffé, c'est quand il crie « Ray ! »
J'ai choisi ce personnage avant tout pour son potentiel narratif qui a été, je trouve, complètement gâché dans la saga. Donc, il fallait bien parler de la trilogie Disney comme
un peu.
Et donc, je trouve que Finn était le personnage le plus prometteur dans le tas. Je me souviens, je sais pas si toi aussi, dans la première bande-annonce, enfin même le premier teaser, je pense, du set, c'est lui, en fait, on le voit qui retire son casque.
Ouais.
Alors, on fait, oh putain, c'est un Stormtrooper, il est noir, comment c'est possible, c'est tous des clones, etc. Donc
levé de bouclier.
Évidemment.
Tout le monde trash talk.
À fond, la caisse. Sauf qu'en fait, ça menait une histoire très intéressante sur le fait que l'Empire, qui était devenu de plus en plus gros, ils avaient pas assez de soldats, donc ils allaient dans des planètes, ils butaient tout le monde, ils prenaient les gosses et ils les entraînaient, tout simplement. Je trouvais que l'idée était intéressante. Évidemment, le parallèle avec les jeunesses hitlériennes est évident. Peut-être un peu trop évident, tu me diras, Dalil.
Non, il y a vraiment... cette trilogie-là est dans la subtilité. C'est avant tout ça. C'est vraiment la subtilité. Passer des petits messages comme ça, si t'avais pas compris, eh bien, tu peux réfléchir
bref,
après là-dessus.
Bref, Finn, je trouve qu'il était quand même très intéressant. Sauf que, évidemment, le mec a une origin story plutôt sympathique. Mm-hmm. Un conflit avec le Capitaine Phasma qui aurait pu être épique.
Oh, Capitaine Phasma, meilleur personnage de l'histoire.
Un potentiel gigantesque et un lien avec la Force évident. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui pendant les trois films ? Bah, il court après Rey, il cherche Rey, il veut dire un secret à Rey et il crie comme tu le disais. Et il embrasse aussi la meuf comme ça complètement random. Bref.
Mais je pense que c'est le fils de Mace Windu.
Tais-toi, je t'avais dit de pas le dire.
Non, mais je le dis. Mais Black, mec, il est Black. Et Mace Windu, il est Black.
On va se faire strike ici. Alors, on ne saura d'ailleurs même pas ce qu'il voulait dire à Rey à la fin du film. Beaucoup de rumeurs sur le fait qu'il soit juste amoureux d'elle, mais moi je crois pas. Moi je crois juste qu'il voulait dire.
Toi, t'es plus dans la subtilité.
Non, moi je pensais qu'il allait dire bah, genre, j'ai un lien avec la Force, entraîne-moi. Enfin, je sais pas, une couille ainsi. Non, merci. Parce que tout le monde sait de qui il est amoureux, Finn.
Rose ?
Non. Finn, il est amoureux de Poe. Parce que Poe et Finn, c'est quand même la plus belle bromance de l'histoire de l'humanité. Bro, I love you, bro.
Voilà,
quelques rumeurs sur le fait qu'il y avait des petits mais que Disney n'a pas osé. Voilà, ils ont juste mis comme ça, là, en mode...
Non, parce que après Poe, il a eu son histoire romantique avec l'autre.
Ouais, mais lui aussi, Finn aussi, il a eu une petite histoire romantique, tu vois, mais c'est eux, gros, c'est évident. Quoi,
okay. Chacun son kiff, hein.
Bref, c'est qui ton troisième personnage préféré chez les rebelles?
Bah, moi, chez les rebelles, je vais parler du petit bonhomme vert, c'est-à-dire le fils non avoué de Kermit et Piggy. Nul autre que Yoda. Donc, si je dis Kermit, Piggy et Yoda, c'est parce qu'ils ont tous été doublés par le même acteur. Quel c'est talent. Frank Oz. Il faut savoir que George Lucas ne voulait pas que Frank Oz fasse la voix.
Ok.
Et il a donc, dans les premiers shoots, il détestait Frank Oz, et puis au final, il s'est dit « Ah mais non, mais ça mérite un Oscar, c'est vraiment génial !» Enfin bref. Et donc, Yoda, pourquoi je le kiffe? Bah, parce que c'est le personnage, donc c'est une pierre angulaire de l'univers Star Wars. Enfin, je veux dire, quand tu penses à Star Wars, forcément à Yoda. Mais en fait, tu sais que dalle de lui. Mais rien du tout, quoi.
C'est vrai.
Tu sais que bah, c'est la figure de sagesse de Star Wars. Tu sais qu'il a entraîné des Jedi pendant plus de 800 ans et qui fait partie des Jedi les plus puissants, mais tu sais rien sur son origin story, tu sais pas du tout de quelle planète il est, etc. Et c'est fait exprès, en fait, pour dire, hein, parce que j'ai quand même voulu essayer, tu vois, de
gratter, le mec a taffé, les gars.
J'ai dû me retaper plusieurs fois des scènes, donc la scène du conseil dans le 1, pour savoir que, en fait, bébé Yoda n'est pas la deuxième apparition
d'un membre de cette...
d'un membre de cette espèce.
Ok. Donc il y en a un qui est caché.
Non, une.
Ouh.
Qui est cachée.
Et comment tu reconnais que c'est une fille?
En fait, on s'en fout complètement de cette go, mais elle s'appelle Yaddle.
Très original.
Oui, hein, c'est magnifique comme...
Et quoi,
comme
bébé Yoda, il s'appelle comment alors?
Je sais pas.
Yaddle.
En fait, enfin, je sais pas. Merci. Yodou. Mais du coup, cette dame, on en sait pas grand chose. Elle a fait une apparition dans un comics sur Darth Vader. Mais vraiment, le charme de ce petit sacripant de bonhomme vert, bah, c'est vraiment sa sagesse, son côté bienveillant. Quand il essaie de remettre Anakin dans le droit chemin, tu vois que c'est une de ses plus grandes défaites, en fait. Mm-hmm.
Un de ses plus gros échecs.
Un de ses plus gros échecs en tant que maître Jedi. Tu vois, tu comprends.
Mais il s'est jamais vraiment occupé de lui, ça n'a jamais été vraiment son maître, si.
Ça n'a jamais vraiment été son
mais
maître.
Il surveillait, quoi.
Tu vois, qu'il... Ouais, en fait, si tu veux,
il est impliqué.
C'est lui qui l'a entraîné au sabre. Et donc, du coup, c'est une défaite pour lui. C'est vraiment un échec.
Si c'était un autre... Ouais, mais non, je vais spoiler mon top, mais c'est pas grave. Continue.
Okay.
J'allais dire, si c'était un autre qui l'avait entraîné au sabre, peut-être qu'il aurait battu Obi-Wan. Hein.
On comprend même aussi pourquoi il est réticent avec Luke. Bref, c'est vraiment un personnage qui pue la classe dans ses fights. Quand à chaque fois qu'il bastonne, gros, c'est juste insane. Alors, tu sais sur quel animal ils ont basé sa maîtrise de la technique du sabre laser?
Ouais, physiquement ou au niveau de la technique? Parce que ça pourrait être genre la chauve-souris, tu vois, qui va dans tous les sens.
Non, pas du tout. Il est vert, sérieusement.
Mais oui, mais
tu
c'est pour ça que
à la guernouille.
Hein. Bah, ah oui, oui, à la guernouille. Oui.
À la guernouille. Donc, George Lucas s'est dit, bah, si on donnait un sabre laser à une grenouille.
Il se bat pas vraiment comme une grenouille, gros.
Mais non, mais je veux dire, dans le sens où
physiquement, oui. Mais...
Il saute dans tous les sens, etc.
Okay, ouais.
Et puis, mais c'est vrai, non, il a pas la. Je veux dire, c'est pas une grenouille. T'imagines la grenouille avec le sabre laser dans la boue, gros.
Énorme puissance mentale.
Oui.
Plutôt dans le mental, gros.
C'est ça.
Bon, on va enchaîner sur un truc un peu inédit dans notre classement pour l'instant. je vais parler d'un droïde.
Oh là là.
Et oui. Pour mon deuxième perso préféré du côté des rebelles, je vais aller avec un choix qui ne fera peut-être pas l'unanimité, j'ai du mal à dire
bravo,
ce mot.
Bravo, me féliciter pour la vraie.
Souvent peu apprécié par les fans de la saga, considéré même parfois comme complètement inutile. Non, 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 je ne parle pas de Jar Jar Binks, mais bien de C-3PO.
Putain, franchement, si tu m'avais dit Jar Jar Binks,
t'imagines
Jar Jar Binks,
Jar Jar Binks, j'adore.
Moi, je kiffe Jar Jar Binks. Missa Missa, like Jar Jar.
N'empêche qu'ils sont quand même très semblables au niveau de...
Ah ouais, non, ils sont tous les deux chiants,
tu
mais
C-3PO... Mais C-3 est quand même mieux.
Ouais, un peu mieux
beaucoup
quand même.
Beaucoup mieux même.
Mais il me casse les couilles quand même.
Ouais, moi non, j'aime beaucoup. Enfin, bref. Parce que c'est quand même la bienveillance à l'état pur, la touch d'humour qu'il faut. C'est vraiment le comic relief un peu de la saga. R2 aurait pu l'être, mais sauf qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Et donc, heureusement que C-3 est là aussi, hein, parce qu'il traduit tout ce que dit le petit, là. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Heureusement qu'il est là pour traduire pas mal
Après,
de trucs. Et alors, on l'oublie. Ouais. Trop souvent, mais sans lui, rien ne serait arrivé parce qu'il a une importance capitale dans toute l'intrigue de Star Wars, évidemment. Il est le premier à parler à la rébellion de Luke.
Mm-hmm.
Donc déjà, bah, sans ça, il n'y a rien, j'ai envie de dire. Hein. Il pousse toujours Han Solo à prouver que c'est un pur BG parce qu'il lui dit toujours que les probabilités qu'il réussisse ce qu'il est en train de faire sont très faibles. Et Han, vu que c'est un mec qui a de toujours prouvé tout à tout le monde, il dit, bah, moi, je vais montrer à ce robot que c'est moi le boss. Et donc, il réussit. Sans lui, genre quand il passe le chemin le truc d'astéroïde là, il serait jamais arrivé.
Ouais, mais
il serait jamais arrivé.
Pas, bon. Tu comprends pas ça si t'avais pas vu le Solo, le Star Wars Story.
C'est vrai. Hein? Ah ouais, il faut regarder Solo.
Non, ne passez pas, ne perdez pas deux heures comme moi de ma life à regarder
vous
Solo.
Vous pouvez regarder le moment où Dark Maul revient.
Ouais, c'est vraiment tout. Ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il y a de bon dans ce film.
Ouais, à fond. Il a quand même été construit par Anakin.
Ça, c'est vrai.
Et enfin, je veux dire, il touche à tout quoi.
Et, ouais. Donc, et toujours cette histoire de cycle encore.
Oui.
Hein. Il a été construit par Anakin et il a été récupéré par Luke.
C'est ça.
Sans qu'il sache
c'est ça.
Que c'était
mais oui,
Anakin
c'est
qui l'avait construit.
Il a subi pas mal de memory swipe, évidemment. Et c'est le seul perso avec R2-D2 à être dans les 9 films de la saga.
Allez.
C'est un peu à E2, je trouve, qui forme un peu le cœur de la saga. Tu vois.
Ouais, c'est vrai que.
C'est la constante, quoi.
Mm.
C'est la constante dans tout le truc. Ils sont tout le temps là. Et c'est eux qui ont tout vécu au final. R2, il n'a jamais eu de memory swipe, je pense.
Non.
Donc c'est le seul qui connaît vraiment toute l'histoire.
Yes.
Alors que, évidemment. Et donc, justement, d'où l'importance du personnage de C-3PO. Pourquoi vous pensez qu'à la fin de la Revanche des Sith, on veut lui effacer la mémoire? C'est tellement il a d'informations intéressantes.
Oh là là.
Et c'est le seul à pouvoir les divulguer.
Oh là là.
Et le mec est trop fort, quoi. On lui a enfin offert son moment de gloire dans le dernier opus de la saga. Quand il dit One last look at my friends. Une petite larme
oh
quand même
là.
Quoi. Il est,
ah ouais,
il est devenu un peu dark là pendant quelques secondes, c'était intéressant aussi.
Il a sombré dans le côté obscur.
C'était un peu une des bonnes scènes de la saga. Vous doutez peut-être encore de son importance. Eh bien, petite statistique très intéressante. Sachez qu'il a la première ligne dans l'opus numéro 4, Un Nouvel Espoir. Et la dernière ligne dans le numéro 3, La Revanche des Sith. Donc si on les prend dans l'ordre chronologique, on va dire, il a la première ligne et la dernière ligne.
Oh là là.
Si ça, c'est pas une statistique qui prouve que c'est le personnage principal de cette histoire, bon sang.
T'as vraiment été jusque là pour prouver qu'il méritait la place dans le top, quoi.
À fond. Et donc, évidemment, tout ça ne serait pas possible sans Anthony Daniels.
Ça, c'est vrai.
Qui a sublimé le personnage, qui l'a donc interprété, qui l'a doublé. Il s'est inspiré des majordomes british pour jouer le rôle. Je pense que ça se voit assez fort, évidemment. Et petite statistique aussi, c'est le seul acteur, donc Anthony Daniels, à jouer dans tous les films de Star Wars. Parce que donc, il joue le rôle de C-3PO dans tous les films Star Wars, et il joue le rôle de Tak dans les deux Star Wars Story. Donc le mec pulse, quoi.
Eh bien, moi, je vais te parler du gars qui est jalousé par Anthony Daniels.
Ouf.
C'est le droïde. Moi aussi, je me suis dit un petit droïde.
Oh
ça,
là là, le copier.
On se fait plaisir. Eh bien, c'est K2SO, le droïde de Rogue One, tu vois.
C'est vrai qu'il est sympa aussi,
donc,
mais il est moins important. Hein. Je pense qu'il n'a pas la première ligne et la dernière ligne dans Rogue One. Même dans un film, quoi. Alors t'imagines.
Après, il est super important, tu déconnes.
Oui,
quoi.
Oui, il est super
pour
important.
L'histoire, il est super important.
Ouais, il est super important.
S'il n'y avait pas lui, il n'y aurait pas eu de 4. Hein.
À fond. Et il est moins chiant.
Et il est beaucoup moins chiant. Mais donc, pour moi, Rogue One, c'est le seul bon film de la nouvelle, depuis le rachat de Disney, en fait.
Mm-hmm.
Tous les persos sont attachants. On voit qu'en fait, ils ont travaillé les personnages, quoi.
Ouais.
Pas
ouais,
comme
ouais,
dans
ça,
une
c'est clair.
Trilogie.
Mais non, en fait, je pense que le problème avec la trilogie, c'est qu'ils se sont focus sur deux personnages. Et encore, ils l'ont mal fait, mais ils se sont focus sur deux personnages et ils ont bâclé les autres, quoi. Alors que dans Rogue One, c'est complètement l'opposé.
Ouais, ouais, ouais.
Il n'y en a pas un où tu connais vraiment tout sur lui, mais tu connais assez sur chacun pour être attaché.
Oh, Donnie Yen, ouais. Voilà. Bref, moi, vraiment, celui qui m'a, j'ai trouvé vraiment le plus attachant, c'est K2SO. C'est un droïde impérial reprogrammé par Cassian Andor. Et lors de sa reprogrammation, il a développé une personnalité bien à lui, c'est-à-dire qu'il ne fait que dire ce qui lui passe par la tête en toute honnêteté, tu vois. Mmh. Et donc, pour un peu situer les gens, c'est comme si C3PO et R2D2 avaient passé un peu trop de temps sur Internet. Ils ont regardé un peu des R34, ils sont vraiment tombés dans le dark side du Internet. Et puis ils se sont dit, et si on entre une petite relation romantique, tu vois. Et donc, du coup, l'enfant de cette romance, c'est l'élu. C'est K2SO. Bien sûr, gros, c'est le Chosen One. Il est hilarant du début jusqu'à la fin. Il est charismatique.
Oui. C'est vrai que pour un robot, c'est compliqué. Hein, mais il réussit.
Et alors, c'est vraiment grâce à Alan Tudyk, il faut le dire, qui a sublimé son rôle et qui a fait que Anthony Daniels était vraiment jaloux de son interprétation. Parce que Alan Tudyk l'interprète, mais le double aussi.
Okay.
Et donc, ça a donné des scènes épiques. Quoi.
Ouais,
quand il défraque des portes et qu'il commence à dire « Je suis là pour vous sauver, ne vous enfuyez pas, mec !» C'est vraiment terrible. Enfin, bref, c'est la touch pour justement décompresser dans les moments de stress.
Yes.
Et il le fait vraiment à chaque fois de manière juste. Mm-hmm. Et il a vraiment toujours à chaque fois les bonnes répliques. Encore une fois, ça prouve que les scénaristes ont vraiment bien travaillé les dialogues. Quoi.
Ouais, et ça prouve l'importance des scénaristes aussi dans un film, ça c'est sûr. Et au-delà de ça, il est super attachant. Enfin, je veux dire, la scène... attention, spoiler, si vous n'avez pas vu Rogue One. La scène où il die...
Ouais. Ah ouais, t'as quand même ton petit cœur qui se brise en mille morceaux là. Et alors, on y va?
Alors
top 1.
Alors le top 1, moi j'ai choisi le maître Jedi qui pulse le plus de l'univers de la galaxie. Je parle évidemment de maître Windu.
Non, ouais, bien sûr, c'est parce que c'est Samuel Jackson ça.
Because Samuel Jackson, évidemment. Mais pas que. Quand on apprend un peu plus connaître maître Windu, le mec est quand même vachement balèze, on y reviendra. Mais évidemment, le personnage ne serait pas aussi emblématique si c'était un autre acteur.
Ouais,
donc
ouais,
on est obligé de parler de Samuel Jackson, surtout que c'est lui qui lui a donné une importance un peu plus importante,
ouais,
évidemment.
Le gars,
il a cassé les couilles à George Lucas pour être vraiment un mec qui pulse à mort. Il faut savoir que Maître Windu est genre le duelliste le plus balèze de la galaxie, jusqu'à ce qu'Anakin arrive, et voilà, Anakin il était quand même balèze, il faut le reconnaître. Mais il a un kill count de plus de 1000 personnes.
Rien que ça.
Une machine à tuer,
c'est
quoi,
ça, quoi.
Le mec. Une machine
le gars,
à
on
tuer.
Peut faire un film d'action à la Michael Bay avec
c'est,
lui.
C'est un peu ça, tu vois. Mm-hmm. Genre, dans la bataille, dans le 2, gros, il est en train de péter tout le monde. Enfin,
ouais, c'est vrai.
Monstrueux. Et donc, pourquoi on se souvient de Maître Windu? Surtout grâce à son sabre, parce que son sabre, il était mauve. Alors que George Lucas avait toujours dit que les Jedi avaient des sabres bleus ou verts. Mm-hmm. Et les méchants, les Sith, avaient des sabres rouge. Alors pourquoi ce connard a un sabre mauve? Mais c'est simple, Samuel L. Jackson a un peu fait chier George Lucas en lui disant « Ouais, vas-y mec, j'aimerais bien avoir un sabre un peu différent pour pouvoir me repérer plus facilement à l'écran durant les batailles, donc par exemple la bataille de Geonosis. » Et donc il dit « Tu sais, mon personnage, ça fait quand même longtemps qu'il est là dans le conseil, après Maître Yoda, je suis le plus vieux, je suis quand même le meilleur dueliste, je mérite quand même d'avoir un meilleur sabre laser. » Enfin, il a vraiment utilisé tous les arguments. Quoi. Et George Lucas a fini par céder, lui a donné son sabre mauve. Et donc c'est drôle parce qu'après tu vois dans l'univers Star Wars, ça a été justifié dans l'univers, tu vois. Ouais, en fait Maître Windu, il a découvert des cristaux, enfin tu
c'est
vois
ça.
je trouve que c'est super drôle.
Il a déconné de dingue.
Un autre petit caprice de Samuel L. Jackson, il devait normalement mourir sous l'ordre 66 comme tous les autres Jedi, mais il a demandé d'avoir une mort un peu plus spectaculaire. Son vœu a été exaucé parce qu'il meurt quand même d'une manière assez épique. Le combat final avec l'empereur Palpatine est quand même monstrueux. Il a quand même failli le péter.
Oh, c'est vrai, il faut quand même le noter.
Il faut quand même noter que le mec a failli tuer.
Yoda l'a pas réussi, mais lui par contre il l'a pété.
Jusqu'à ce que, évidemment, le petit Anakin s'en mêle.
Ouais, mais encore, là encore, c'est parce qu'il doutait d'Anakin,
il aurait pu
péter Anakin.
Oui, je pense. Mais ça aurait été un beau combat, hein, putain.
Ouais,
Anakin, Maître Windu.
Jean-Lucas, si tu m'entends, pour la prochaine trilogie, réussis-le.
Ouais, donc ça va être compliqué là, mais bon.
Samuel.
Et petite anecdote, Samuel Jackson a fait graver le manche de son sabre laser de son personnage avec l'inscription « Bad Motherfucker ». Inscription visible sur son portefeuille de Pulp Fiction. Donc le mec met de la pop culture dans la pop culture pour avoir un peu plus de pop culture. Quoi.
C'est ça, ils sont vraiment les couilles. C'est vraiment ouf.
Même au niveau du personnage, Maître Windu, il faut savoir, bah, donc, je vous l'ai dit, c'est un grand dueliste même. Il utilisait des pouvoirs de la force obscure lorsqu'il combattait. Donc mm-hmm. en fait, on a toujours cette impression quand il se fight qu'il est en mode chill et tout, mais à l'intérieur, c'est un conflit interne énorme quoi, pour que le côté obscur ne prenne voilà, pas possession de lui. Et donc, c'est ce qui lui permettait d'être une machine à tuer sur le terrain, évidemment.
Allez.
Et,
bien, moi,
et non, ce n'est pas le père de Field.
Gros, il se ressemble trop. C'est pour ça qu'il l'a pris. Mais moi, mon top 1, parce qu'il faut quand même en parler, tu vois. Là, on parle que des mecs depuis tout à l'heure.
C'est vrai.
C'est la...
Princesse Leila.
Pas du tout.
Pas du tout. Il m'a feinté.
La première chevalière Jedi de l'univers Star Wars, c'est Ahsoka Tano.
Les filles peuvent être des Jedi.
Oh là là.
Mais oui, c'est le personnage qui a été créé juste pour la série Clone Wars, donc le dessin animé.
Qu'on vous conseille vivement.
Oui, vraiment.
Enfin, le début est un peu plus compliqué.
Oui, c'est ça. Ouais. Les premières saisons sont vraiment difficiles. Mais après,
c'est très bien.
Après, ça pulse. Donc... Ahsoka Tano, c'est un personnage doublé par Ashley Eckstein en VO, et c'est celle qui va être interprétée par la belle Rosario Dawson dans la série Mandalorian, et elle va surtout avoir sa propre série, ça a été confirmé.
Donc elle va être dans la série, elle va avoir
une série.
Disney Plus alors.
Normalement, oui. Ouais. Ouais, normalement. Son cas est vraiment particulier à Ahsoka Tano parce que elle n'apparaît dans aucun film Star Wars.
Non.
Elle est juste là pour Clone Wars. Et elle est là pour montrer l'évolution d'Anakin entre le deuxième volet et le troisième volet. Donc, okay. On voit dans le deuxième volet qu'Anakin est un peu impulsif. Mm-hmm. Il n'est pas du... Enfin, tu sais,
il est
un gamin, quoi.
Il est amoureux,
voilà, c'est ça. Il est dans ses émotions. Eh bien, dans le 3, il est un peu plus posé, il est un peu plus mature. Mm-hmm. Et tout ça, c'est grâce à Ahsoka Tano, parce que c'est ça... Jeune Padawan.
Ah, voilà. Mais donc, c'est ce qui est dingue. Enfin, non, c'est pas dingue. Mais elle est même pas évoquée dans les films, quoi.
Non, elle est pas du tout évoquée. C'est fou. Hein. Et donc, oui, c'est vraiment elle avec le rôle principal de Jedi. Alors, il faut savoir quand même qu'au début, elle casse les couilles. Vraiment, elle est vraiment casse-couille. Ouais. C'est vraiment difficile. Mais plus l'histoire va avancer, plus Clone Wars va avancer dans les épisodes, et plus son personnage va devenir un peu plus complexe et beaucoup plus intéressant. Ahsoka n'est surtout pas la béquille d'Anakin, pas tout le temps en tout cas. Elle va vraiment s'affranchir vers les dernières saisons où, comme un certain Comte Dooku, elle va être désillusionnée par l'ordre des Jedi et par la corruption qui règne dans le Sénat. Mmh. Et donc, elle va s'affranchir de l'ordre pour être un Grey Jedi.
Ah, les Grey Jedi.
Donc, les Grey Jedi, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des Jedi qui...
sont gris.
Exactement.
Donc ils sont pas rouges, ils sont pas bleus, donc ils sont gris.
Voilà. Bah je pense qu'on a fait une belle...
Voilà, pour résumer. Hein.
Bon résumé podcast. On peut arrêter là. Donc pour aller un peu plus loin, donc c'est des Jedi qui ne sont ni dans le côté obscur, ni dans le bon côté de la force. Ils sont vraiment borderline. Et elle va utiliser ça pour justement une bonne morale, tu vois. Enfin, elle va appliquer ses trucs, elle va avoir ses propres aventures, etc. Elle va vivre sa propre vie et elle va combattre les injustices de cette façon-là, quoi. Ni bon, ni mauvais.
Ouais, ouais.
Et ça va donner justement une petite réplique culte et un combat culte. Elle contre Darth Vador dans Star Wars Rebels. Enfin, je vous mettrai le lien en description parce que c'est vraiment une grosse baston.
Mais elle savait que c'était Anakin
animé. Oui, bien sûr.
De ce que j'ai compris avec mes petites recherches, c'est quand même une fan favorite. Hein.
Oui, clairement, elle est vraiment la fan favorite. Ça fait vraiment plaisir de la voir prendre son envol maintenant dans le nouvel univers. Et bah, j'attends vraiment énormément du live action, quoi, parce que c'est vraiment un personnage aussi qui m'est cher, parce que bah, c'est la première femme Jedi avant Rey. Quoi.
Ouais.
Et en plus, elle a deux sabres laser.
Comte Dooku ne sera pas content.
Comte Dooku ne sera pas content, en effet. C'est là où elle s'affranchit de Dooku. En fait, elle a deux sabres laser blancs.
Ok, oui.
Pour vraiment signifier qu'elle n'appartient à aucun ordre.
Il faudrait qu'elle ait des sabres
laser.
Et
alors, sa technique est basée sur les femmes samouraïs. de l'époque. Donc franchement, ça pulse. Il y a vraiment tout qui pulse. Chez
écoute,
chez
moi,
elle.
Je ne connais pas du tout le personnage, donc j'espère qu'ils vont faire. Ou bien je regarderai Clone Wars. Enfin, je verrai ce que je vais faire. On vous tiendra évidemment au courant de l'avancée des projets.
Ouais, voilà, c'est ça. On fera des petits points, un podcast.
Yes, je pense que ça termine un peu notre top des personnages. Et on va terminer ce podcast avec notre top 1, film préféré Star Wars.
Le Star Wars fan favori.
Et moi, c'est le numéro 9. Oh là là, je suis trop comique.
T'as vraiment kiffé les chevaux sur un Star Destroyer.
J'ai bien aimé. Non, moi, c'était une longue réflexion.
Oh là là.
Pour tout vous dire.
C'était sur le pot.
Objectivement, je trouve que le 5, l'Empire Contre-Attaque, c'est le plus complet.
Ouais. Je suis d'accord.
Ça, je pense que tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord. Mais si on parle de notre préféré personnel, moi, ça se joue entre Rogue One et La Revanche des Sith. Donc, je les ai regardés il n'y a pas si longtemps que ça, pour me redonner une idée. Et je choisirai Rogue One car il est plus stable. Pour moi, La Revanche des Sith, il y a des bas et des très très hauts. Mm-hmm. Mais les bas me font un peu chier. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Rogue One qui est plus complet, à mon avis.
Allez. Moi, non, j'ai choisi justement ton autre.
Mm-hmm.
Bah, putain, on est vraiment en connexion, c'est ouf. Fort, hein. Parce que moi aussi, j'hésitais entre Rogue One et,
oh là là, mais arrête,
et
hein.
L'Empire. Et
c'était plus chouette quand on se fightait sur Tarantino.
Ouais, je sais, j'avoue.
C'est pas du bon contenu, là.
C'est pas du bon, il n'y a pas assez de bon content. Donc oui, non, moi, mon préféré, c'est vraiment Star Wars 3. Bah, déjà, par nostalgie, parce que j'étais allé voir au cinéma quand il est sorti, quoi, en 2005, quand j'avais 10 ans. Et puis, tous les arcs narratifs qu'il y a à l'intérieur, quoi.
Oui. C'est plus épique, ça, c'est sûr.
Tu vois le vrai visage de Palpatine. Même que ça soit dans les révélations ou alors dans physiquement, tu vois, il y a un nombre de mèmes, il faut le dire. Ouais. Le nombre de mèmes est incalculable.
C'est vrai que le meme maker de Rogue One est pas top.
Pas top, hein, mais vraiment le meme maker sur Star Wars 3, bon Dieu, t'y. Hello there. Et même dans les bastons, quoi. Donc dans la trilogie originale, eh bien, on n'a jamais vu un combat de Jedi, tu vois, puisque Luke, il a eu un condensé d'apprentissage. Et là, on voit des combats de Jedi, en veux-tu, en voilà, ça pulse du début jusqu'à la fin. Le 2v1, Dooku versus Anakin et Obi-Wan, je dis oui, mais c'est surtout la baston finale, gros, avec...
Masterclass.
Où, on l'a dit tout à l'heure, ouais. Hayden Christensen et Ewan McGregor qui ont répété pendant 2 mois pour te filer une baston ainsi. Mais mec, moi, j'étais au max. Ce qui va vraiment le propulser dans mon top 1, c'est la scène finale, en fait, qui est vraiment magnifique. Le nom de Dark Vador, qui montre vraiment cette déshumanisation, en fait, du personnage, où il passe de Anakin à Dark Vador, où il passe de mode humain à pantin, où tu vois que Palpatine l'a complètement brainwash et il le contrôle à 100% à partir du moment où il met son armure. Enfin, moi, je dis oui. Tout simplement, je fais appel à Julien Lepers qui tape sur la table. Oui. Donc voilà.
Mais oui,
ça termine.
Écoute, c'est pour ça, en grosse partie, qu'on ne voulait pas faire un top des films parce que vous vous doutez bien, on le confirme maintenant, ça aurait été fort similaire.
Ouais, voilà, ça aurait pas été cool.
Non, et donc en effet, ça termine notre podcast spécial Star Wars. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous donner vos personnages préférés, votre Star Wars préféré, le Star Wars que vous avez le moins aimé.
On est preneur. Hein.
On est preneur. Je pense qu'il y a qu'une chose à dire.
La pop culture.
Ah, c'est comme Star Wars Disney.
C'est ça. Moins t'as...
Plus t'as de thunes, moins tu fais d'efforts.
C'est ça. C'est exactement ça. Ou moins t'as de contenu, et plus tu l'étales sur 3 films. Quoi.
Ouais, très bien, très bien. Allez, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.